Les As de la CoPro, le métier de syndic.
Alors là, on va parler, alors métier de syndic, très large, du BRS, le bail réel solidaire. On en parle beaucoup en ce moment. Alors, dans quel contexte? On en parle pour la rénovation énergétique ou la rénovation tout court. On en parle pour la crise du logement, par rapport au prix, par rapport à la spéculation sur les prix de l'immobilier. Donc, le BRS, on en parle, mais c'est quoi? On va essayer de faire un petit tour d'horizon pour informer nos auditeurs. Sabrina, je vous lance sur la question. BRS.
Le bail réel solidaire. Alors, pour information, donc, c'est un dispositif qui a été créé aujourd'hui par la loi Macron, donc d'août 2015, et qui permet à des ménages à revenus modestes d'accéder à la propriété. Donc, l'objectif, c'était effectivement de pouvoir, donc 2015, on est en 2024, donc vous voyez aussi que ça met un peu de temps à être connu, mais c'est un dispositif qui a au moins la chance de permettre effectivement à des revenus modestes de pouvoir accéder à la propriété, et par un montage qui est assez simple, je vais tenter de vous l'expliquer, c'est celui de dissocier le foncier du bâti. C'est-à-dire que quand vous achetez le bail, quand vous êtes preneur à bail réel solidaire, vous achetez votre logement, mais vous n'achetez pas le terrain sur lequel l'immeuble a été bâti. Celui-ci, il a été acquis par ce qu'on appelle un OFS, c'est un office foncier solidaire, qui a pour objectif d'acheter le terrain, de permettre l'acquisition d'un logement donc à des ménages, et en contrepartie de signer ce fameux bail réel solidaire qui va nécessiter en fait une redevance que vous aurez à payer comme un loyer sur une durée allant de 18 à 99 ans. Donc c'est vraiment la dissociation des deux de ces deux parties qui vont permettre d'avoir des tarifs en fait en termes d'acquisition de logement à des tarifs préférentiels. On le voit sur des zones tendues, ça va de 15 à 40% d'économie. Donc réellement on obtient des tarifs qui sont plus accessibles. On permet aussi, parce que il y a aussi des règles bien sûr, des revenus maximum à ne pas dépasser pour prétendre en tout cas à pouvoir acheter sous ce dispositif, et donc permettre à des personnes de pouvoir se loger à des tarifs décents et d'accéder à la propriété dans des zones parfois tendues et qui leur coûteraient même moins cher qu'un loyer. Donc c'est ça le bail réel solidaire, c'est vraiment la dissociation des deux. Et qui commence en tout cas à émerger de plus en plus, je trouve, notamment dans des villes sur lesquelles on arrive à construire un peu de logement et sur lesquelles on a du mal aussi à acquérir certains terrains. Donc on arrive à le faire de cette façon-là.
Alors effectivement, c'est un dispositif. Alors on est par rapport au code civil, hein, c'est la dissociation. On a tous appris, enfin ceux qui font du de droit, hein, la propriété du sol emporte la propriété de ce qui est au-dessus et de ce qui est au-dessous. Bah là, on n'est plus du tout dans ce concept. Le concept est né, hein, aux États-Unis dans les années 1970 sur le modèle du Community Land Trust, hein, où on dissocie le foncier du bâti, et c'est en train de prendre en Europe, effectivement, et comme vous dites, loi Macron 2015. Il y a une redevance quand même à payer. Pour le, parce que ça reste c'est un bail. Hein.
C'est un bail. Alors,
ce loyer, il est combien
Alors ouais, le modèle est assez vertueux parce qu'effectivement l'OFS qui reste propriétaire du terrain perçoit une redevance mensuelle. Alors en général, c'est en moyenne entre 1 et 4 euros du mètre carré selon la localisation, selon les conditions de marché. Et donc ça lui permet effectivement d'amortir, de rembourser le coût d'acquisition du terrain, voire d'investir dans d'autres terrains. Pour mettre en œuvre d'autres opérations en BRS. Je trouve que le modèle est très vertueux parce qu'il a été très finement pensé. C'est vrai que ça permet de limiter donc le coût d'achat de l'appartement. Hein. On parle d'un achat, même si c'est un bail réel, c'est un achat à durée limitée entre 18 et 90 ans, mais avec un mécanisme qui est hyper intelligent, c'est qu'à la revente, en fait, cette durée se recharge. Et donc l'acquéreur, la personne qui va prendre à bail après le copropriétaire en place, hein, l'acquéreur repart pour la même durée. Donc finalement, il n'y a pas de dépréciation.
Pareil pour une succession, ça marche aussi pour une succession.
Pareil pour une succession, il y a quand même une limite qui est qu'il faut que le nouveau preneur soit agréé par l'OFS parce que il doit lui-même répondre aux conditions de ressources qui font toute la philosophie du sujet. Pourquoi le BRS, à mon avis, va bien fonctionner aussi? C'est parce que c'est un mécanisme de démembrement qui est très simple à gérer, puisque finalement, en tout cas pour un syndic, l'ensemble des charges de copropriété sont assumées par le preneur, qu'on va appeler le copropriétaire, hein, qui finalement a tous les droits et les devoirs d'un copropriétaire. La seule spécificité, c'est effectivement que l'OFS devra prendre certaines décisions, les décisions relatives...
Donc l'OFS est copropriétaire aussi.
L'OFS est copropriétaire, hein, on est dans un mécanisme de démembrement de la propriété, mais l'OFS ne prend en charge aucune dépense, donc ça c'est très simple à gérer pour les syndics, et l'OFS finalement ne va prendre que les décisions relatives à l'amélioration.
S'il y a des travaux en sous-œuvre, comme il est propriétaire du sol, c'est pas l'OFS qui doit les prendre ?
A priori non, si ce sont des travaux d'entretien, mais enfin je pense que ça doit pas arriver tous les mois.
Des travaux en sous-œuvre, un micro-pieu, etc. On parle bien d'intervention sur le sol, propriété de l'OFS.
Le code de la construction et de l'habitation ne le prévoit pas, ça posera peut-être des questions de jurisprudence ultérieure, mais sur le papier, l'OFS n'assume absolument aucune charge. Alors, il y a quand même un sujet qui va poser difficulté. Vous en parliez, Gilles, c'est cette fameuse redevance que tout preneur, tout copropriétaire doit verser mensuellement à l'OFS. Le code de la construction prévoit que le règlement de copropriété prévoit une délégation de recouvrement au profit du syndic. Et alors là, il va falloir que la pratique se cale. Parce que qu'est-ce que cette redevance? Est-ce que le fait que le syndic ait un mandat permet au syndic d'appeler cette redevance finalement dans les charges, hein, à travers les charges de copropriété, ce qui, pour moi, est la seule solution vraiment simple, parce que si jamais on considère qu'il n'est pas possible d'appeler cette redevance dans le budget de fonctionnement courant, là, il va falloir mettre en place un mécanisme d'appel de fonds spécifique. En cas de recouvrement, ça ne pourra pas passer par le mécanisme de recouvrement des charges de copropriété qui est quand même extrêmement industrialisé. Et ça, très probablement, on a ici le seul point...
Parce que le loyer, il est versé entre le propriétaire et le preneur. Et l'OFS, le syndic, normalement, n'intervient pas, là.
C'est la qualification, ce que dit Mathieu, c'est effectivement la qualification de cette redevance, puisqu'on a des dispositions, on a même la capacité dans le code de la construction où le règlement de copropriété peut prévoir un mandat de recouvrement de la part du syndic. Oui. Donc, comment est-ce qu'on qualifie cette redevance? Est-ce qu'on considère ça comme une sorte de charge de copropriété qui ne dit pas son nom? Ou est-ce qu'on considère, comme on parle de redevance, pas de loyer, mais de redevance, est-ce qu'on considère que c'est un acte de gestion, alors dans nos métiers, presque d'administration de biens, de gestion locative derrière? Et donc, du coup, avec une sorte de mandat qui serait derrière. Et pour compléter ce que dit
un
Mathieu...
Un mandat entre le syndic et l'OFS.
Entre un mandat, exactement. Un mandat de gestion entre l'OFS et le syndic. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en plus, on commence un petit peu à voir que les OFS ont des pratiques différentes. Moi, j'ai un cas où l'OFS... en fait, le contrat était prévu entre l'OFS et le preneur et le paiement de la redevance se fait en direct entre le preneur et l'OFS. Sans passer par la case syndic. On a d'autres cas où effectivement l'OFS intègre ça dans le règlement de copropriété. Donc on commence déjà pour un mécanisme à peine sorti à avoir des potentiels mises en place un petit peu différentes en fonction des régions.
Alors Pierre-Edouard, la qualification de cette redevance, vous la verriez comment vous?
Elle est assez problématique. Ce sont pas des charges. Les charges, elles sont définies dans la loi de 65, on a un décret comptable, a priori, ça ne rentre pas dans ces catégories. Donc, par définition, je dirais que ça s'en est exclu. La difficulté, c'est qu'on nous dit que le syndic va pouvoir en assurer le recouvrement. Alors, est-ce que c'est le syndic? Est-ce que c'est le syndicat? Déjà, ce ne serait peut-être pas tout à fait la même chose. Et ça fait penser à un mécanisme qui est connu avec les ASL, quand dans les ASL, il y a des syndicats qui sont dans le périmètre, alors qu'ils ne sont pas membres, parce qu'en principe, même si on a des rédactions qui sont parfois un petit peu compliquées, mais en principe, les syndicats ne sont pas membres. Pour autant, on peut prévoir à la fois dans les statuts et dans les règlements de copropriété une faculté pour le syndicat des copropriétaires de recouvrer les cotisations des membres de l'ASL pour les reverser à l'ASL. Ça, ce sont des choses qui existent. Et on trouve la même chose des fois aussi en copropriété quand on a un syndicat primaire avec des autres, qui sont pas vraiment des secondaires, pardon, c'est un peu technique, mais avec d'autres syndicats primaires et qui ont des assiettes différentes, on a ce type de mécanisme de recouvrement. Pour autant, ce sont pas des charges, ce sont effectivement des délégations de pouvoir qui sont données par les uns aux autres pour faciliter la gestion. Mais c'est vrai que ça pose des questions sur qui agit, à quel titre, et peut-être aussi à quelle rémunération, parce qu'a priori, quand le syndic le fait... Je partage l'opinion d'Alexis, il ne fait pas ça en S-qualité de syndic, parce qu'il agit bien pour le compte de l'OFS qui lui a délégué sa mission. Donc, c'est un
alors,
peu
on peut utiliser la convention d'honoraires libre de l'ordonnance. Sabrina, Mathieu, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Oui, je voulais juste ajouter une chose, parce que dans le cadre de ce dispositif, qui je pense aussi est vraiment intéressant, et notamment toutes les personnes éligibles, je trouve que ça, c'est il faut en tout cas essayer de le pratiquer le plus possible. Mais aujourd'hui, on a quand même quelques cas, et notamment dans le cadre de succession. Mathieu l'a dit, l'éligibilité doit être la même, c'est-à-dire que vous devez répondre aux mêmes conditions de ressources et autres pour pouvoir en tout cas y prétendre. Toutefois, quand c'est des enfants, par exemple, qui héritent d'un bien acheté en BRS, eh bien, les conditions ne sont pas forcément réunies. Et le cas échéant, on a un délai qui permet, donc l'OFS accepte qu'il y ait un délai permettant la revente, parce que les conditions doivent être les mêmes, le tarif doit être les mêmes, il est juste...
Et le prix de revente est limité, on ne peut pas spéculer.
Exactement, le prix de revente est au minimum celui... pour lequel, enfin, que vous avez mis le prix d'achat de départ avec une indexation, enfin un indice de révision qui est soit fixé par l'OFS, en général c'est dans ces conditions-là et dans le bail, ce qui permet d'avoir un prix de vente X années.
Et dans le contrat de bail, il peut être aussi stipulé que c'est pour le logement, la résidence principale. Hein.
Exactement, c'est uniquement la résidence principale. Et dernière chose, peut-être sur la représentation en assemblée générale, parce que ces cas de figure, on l'a dans le démembrement, mais on en a quand même pas tant que ça, mais on a quand même aujourd'hui de plus en plus des immeubles en démembrement de propriété sur lesquels on a deux acteurs, le propriétaire qu'on va appeler là, le preneur à bail, le locataire, qui est copropriétaire, et effectivement l'OFS. Pour certaines décisions, les deux doivent être convoqués, notamment l'OFS doit être convoqué également à l'Assemblée Générale, même si effectivement, on est d'accord que pour ce cas de figure uniquement, pour ce dispositif, c'est uniquement le locataire, on va l'appeler comme ça pour simplifier la chose, qui va payer l'intégralité des charges de copropriété et des travaux. Néanmoins, pour certaines décisions, il faut convoquer aussi l'OFS et il peut participer à toutes les réunions s'il en a envie. Donc ça suppose aussi que dans l'organisation des syndics, de devoir convoquer systématiquement, même pour simple information, l'OFS à toutes les assemblées générales.
On avait le même cas de figure, hein, puisque ça fait en 84, on avait la loi sur la location-accession. Qui n'a jamais finalement trop pris, mais qui posait beaucoup de problématiques de mise en place du statut de la copropriété et de gestion aussi de la copropriété.
Puisque... Oui, qui existe toujours et cette problématique se pose toujours.
On avait toujours cet éternel sujet, donc on convoquait potentiellement les deux. Les gros travaux, c'était grosso modo, entre guillemets, le bailleur. Le locataire accédant s'occupait de l'entretien, pour faire
juste une
simplement. Mais du coup, on avait pas mal de difficultés de gestion derrière. Il y avait tout un sujet de levée d'options ou pas d'options. Est-ce que je suis copropriétaire ou pas copropriétaire, donc il faut espérer que le BRS soit pas encore un énième mécanisme.
Ça a l'air plus simple quand même.
Ça a l'air plus simple.
Juste une dernière question, c'est qui ces OFS concrètement ? C'est bailleurs sociaux, promoteurs,
Ça peut être des bailleurs sociaux, on en a, on le voit bien sur le groupe Action Logement notamment où de plus en plus ils proposent ce type de dispositif. Hein.
Donc c'est des bailleurs sociaux qui ont des dotations des collectivités locales,
des collectivités territoriales et qui leur permettent effectivement d'acquérir du foncier.
D'acheter du foncier, c'est l'entretenir. Ça. Donc on est surtout sur les bailleurs sociaux, promoteurs, etc.
Les As de la CoPro sur Radio Immo.